Message, Noël et le retour de Jésus-Christ. Noël et le retour de Jésus-Christ. Et j'aimerais essayer de nous montrer, nous prouver que Noël est la preuve absolue comme quoi Jésus va revenir un jour. Ça, c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Reculons quelques années. Octobre 1976. J'étais en Inde. J'avais 19 ans et j'étais dans une phase hippie de ma vie, avec des cheveux jusqu'aux épaules et un joint entre les lèvres. Je venais de parcourir 8000 km en train et en bus de Genève à New Delhi. J'étais en recherche de deux choses. L'aventure, ça j'ai trouvé. Et honnêtement, je cherchais aussi le sens de la vie. Et ça j'ai aussi trouvé en Jésus-Christ. Mais avant de rencontrer Jésus-Christ, juste 2-3 jours avant, j'étais à New Delhi, j'étais dans la rue et j'étais abordé par un voyant. Il avait une longue barbe blanche, il était vêtu de ses longs pyjamas blancs à l'indienne, il avait un turban sur la tête. C'est vrai que son look était impressionnant, mystique, imposant. Nous avons commencé à parler et il a m'a proposé de lire ma main. C'était un, je ne sais pas si on dit ça, un lecteur de paume, c'est comme ça qu'on le dit? Ok. Alors, quand il m'a proposé ça, d'un côté j'étais intrigué, il faut dire ce qu'il est, mais de l'autre côté j'étais réticent, j'avais un doute. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas, ça fait partie de l'aventure, n'est-ce pas? Donc j'ai donné ma main, il a pris ma main, il a commencé à la regarder attentivement. Et avec son doigt, il a commencé à suivre les traces dans ma main, les plis, avec une intensité que ses yeux qui regardaient, moi c'est comme si c'était hier, d'accord, je me rappelle très très bien de cela, puis il regardait, il montait là, il regardait un petit peu à droite, beaucoup de curiosité. Alors honnêtement, mon cœur y battait fort, car j'étais intrigué de ce qu'il allait me dire. Je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il va me dire un truc vraiment incroyable par rapport à mon avenir et mon futur. Et donc, il a commencé à expliquer la signification de chaque pli, les longs, les courts. Et après quelques instants, il a pris mon autre main pour faire pareil. Puis finalement, il m'a regardé avec ses yeux perçants. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, j'arrive voir ton avenir. Ce que je vois est clair. Et ensuite, il m'a dit, un jour, tu seras très riche. C'est vrai. Je me suis dit, non, quand même, quoi, franchement. C'est... En fait, c'était quoi? Je me rappelle très bien. Hein. Alors, d'un côté, c'est vrai que je me suis dit, ouah, super! Super! Qui ne veut pas qu'on lui dise qu'un jour, il va être très riche? Mais de l'autre côté, je me suis dit, mais c'est pas du blabla, ça? C'est pas du n'importe quoi, ça me paraissait un peu trop classique. Je sais pas, il aurait dû me dire quelque chose de moins simple, c'était un petit peu gros comme une montagne pour moi. Et du coup, je me suis dit, je me demande s'il va me demander de l'argent pour son service. Et oui, il m'a demandé de l'argent pour son service, alors moi je suis parti. Je suis parti, je crois pas que j'ai payé, d'accord? Vraie histoire, hein, vraie histoire. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi tant de gens vont voir des voyants? Pourquoi tant de gens se laissent lire les plis des paumes de leurs mains? Pourquoi les horoscopes marchent si bien? Bien car depuis le début des temps, les gens sont obsédés par le désir de savoir ce qui va leur arriver dans le futur. Depuis des siècles, les rois et les dirigeants de ce monde, les riches et les pauvres, les gens libres et esclaves font appel à des sorciers, à des voyants, à des mages, à des magiciens, aux étoiles, à la lune, aux planètes, et même à des potions magiques pour pouvoir connaître leur avenir. Écoutez, de nos jours, vous le savez très bien, les enseignes des voyants et des cartomancies se trouvent un peu partout. Rien n'a changé. Écoutez, le business de prédire l'avenir marche très très bien de nos jours. En fait, j'ai ouvert la j'ai une application Tribune de Genève, j'ai ouvert hier ou avant-hier, paf, c'était les horoscopes, première page. L'astrologie fonctionne à plein régime. les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens et combien d'autres ont fait appel à ce genre de personnes. Même Jules César consultait les augures pour connaître l'avenir. Mais oui, les gens consultent ces personnes pour toutes sortes de décisions dans leur vie. Mariage, oui ou non. Voyage, oui ou non. Guerre, alliance, école, business ou que je sais-je encore. Nos librairies et nos journaux ont des sections entières dédiées à l'occultisme et à la voyance. Le spiritualisme et le mysticisme sont archi populaires de nos jours. En fait, j'ai lu un article dans le Figaro qui s'appelle « La France occulte » qui date de 2013, je cite. À l'heure des nouvelles technologies et d'Internet, le recours à l'irrationnel et à l'ésotérique est loin d'avoir disparu en France. Bienvenue chez les guérisseurs, les rebouteux, les magnétiseurs, les médiums, les sorciers et les druides. On estime, nous dit l'article, qu'il y a 10 000 guérisseurs qui vivraient actuellement en France. Selon Radio Astro, une Française sur 5 et un Français sur 10 consulteraient aujourd'hui un voyant et un médium. En plus, 15 millions de nos concitoyens avouent croire aux prédictions des voyants. 15 millions vont se faire prédire l'avenir et croient ce qu'on leur dit. Et en parlant des charlatans, l'article dit qu'ils sont des marchands de fausses potions et d'espoir déçus qui profitent sans vergogne de l'angoisse et de la crédulité des gogons. Voilà ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, qu'en est-il de l'avenir ? Est-ce que ceci est vrai ou faux ? Et comment le savoir ? La question que j'aimerais poser et tenter de répondre ce matin est celle-ci. Y a-t-il un moyen sûr et certain pour connaître l'avenir ? Peut-on connaître notre avenir d'une manière certaine, sans devinette, sans erreur ? Et j'ai envie d'ajouter de manière gratuite. Qui, parmi tous les voyants dans le monde, qui a raison ? Comment savoir qui a raison et qui a tort ? En qui peut-on avoir confiance ? C'est une question importante. Si 15 millions de personnes vont voir des voyants, qui a raison alors ? Alors je vais vous répondre. La seule personne à qui vous pouvez faire confiance est dans la personne, écoutez bien, qui ne se trompe jamais. Jamais. Dans les prophéties promulguées. Ni une fois. Car si elle se trompe une fois, ben comment est-ce que vous allez savoir si elle ne se trompe pas chaque fois ? Si elle se trompe une fois, ben on ne sait plus en fait. Comment savoir si ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle vous dit est vrai ou faux, si elle se trompe ? Donc en fait, il faudrait pouvoir établir une sorte de feuille d'évaluation de ce qui présente l'avenir pour voir le taux de réussite. Si quelqu'un a un taux de 50%, je vous pose la question, vous allez les voir ? Une chance sur deux d'avoir raison, vous y allez ? Vous payez ? 70% ? 90% ? Ben non. Non, pour moi, j'irai voir quelqu'un que si je sais qu'ils ont raison 100% du temps. Alors, il est très intéressant de constater que la Bible, justement, établit ce genre de feuille d'évaluation pour les prophètes. Vraiment intéressant. Vous voyez, il y avait tellement de charlatans et de faux prophètes qui profitaient financièrement de leurs fausses prophéties à l'époque qu'il fallait trouver un moyen de trier les vrais des faux. Et moi, je trouve ça absolument génial. La Bible est tellement pratique. Alors, le test, et vous allez le trouver derrière vous, il se trouve dans Deutéronome, chapitre 18, et les versets 20 à 22. D'accord ? Je crois que vous l'avez là derrière vous. Alors, je vais le lire. C'est le test donné par la Bible pour évaluer un prophète. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être, dirais-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Jérémie 28, 9 ajoute, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors, ce verset nous donne le test. C'est quoi le test? Le test, c'est toute prophétie devait s'accomplir. Ça, c'était le test. Quelle était la conséquence si une prophétie promulguée ne s'accomplissait pas? Bon, verset 20, c'est assez clair. Il devait être puni de mort, peine capitale, exécuté. Alors, moi je me demande ce que ça donnerait si cette règle était appliquée de nos jours à toutes les personnes qui se disent capables de prédire l'avenir. Les devins, les astrologues, les augures, les magiciens et ceux qui prédisent l'avenir de nos jours seraient-ils d'accord de se soumettre à ce test de la Bible concernant les prédictions qu'ils font? Qu'est-ce que vous pensez? Absolument pas. Car selon ce test, si une prédiction ne se réalise pas, t'es mort. Une. Juste une. Échouer le test était plutôt sévère, ne pensez-vous pas? Il fallait 100% de réussite, un 6 sur 6, un 20 sur 20. Sinon, c'était la peine de mort et moins de rien. Oui, je pense que si on appliquait cette règle, le paysage de l'occultisme changerait radicalement dans nos pays. Donc nous venons d'évaluer ou d'établir le critère d'évaluation d'un prophète dans la Bible ou de quelqu'un qui se dit pouvoir prédire l'avenir. Une erreur et c'était terminé. Alors écoutez, c'est justement à la lumière de ce critère, de la peine de mort, que les prophètes dans l'Ancien Testament ont eux-mêmes prophétisé au nom de l'Éternel. Écoutez, c'est simple. Tous les prophètes dans la Bible savaient que chaque prophétie qu'ils faisaient allait être criblé au peigne fin par tout Israël, parce qu'ils savaient qu'une erreur, c'était fini pour eux. Et savez-vous combien de prophéties il y a dans la Bible? L'encyclopédie de la prophétie biblique de Jean Barton Payne répertorie 1817 prophéties dans la Bible, dont 1239 dans l'Ancien Testament et 578 dans le Nouveau Testament. Écoutez, la Bible fait des prédictions étonnantes et la plupart encadrées dans l'histoire. En fait, il n'y a rien de plus simple pour évaluer si la Bible a raison ou a tort. Vous prenez les prophéties et vous regardez si c'est accompli ou pas. C'est aussi simple que ça. Alors, peut-être vous dites, waouh, John, pourquoi tu nous dis tout ça ce matin? Vous vous rappelez du titre de mon message? Noël et le retour de Jésus-Christ. Mon objectif est de vous prouver par Noël que Jésus va revenir un jour. Et la raison que j'ai choisi ce sujet est parce que dans notre église, nous parcourons actuellement tous les dimanches le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre dans la Bible, qui nous décrit en détail explicite comment vont se dérouler la fin des temps. Je vous donne un survol rapide, d'accord? C'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. On vient de finir le chapitre 6. Un jour, tous les chrétiens seront soudainement extraits du monde, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Alors, le moment exact est débattu, mais l'enlèvement est certain. Alors commencera ce que la Bible appelle la période dite de la grande tribulation. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse, d'accord? Cette année de fléau effroyable déversée sur la terre par Dieu lui-même. Puis, un homme, l'Antichrist, va surgir, un leader mondial possédé par Satan. Il va régner sur la terre et fera beaucoup, beaucoup de mal. Puis, à la fin de ces 7 années de souffrance terrible sur la terre, où plus d'un tiers de la population mondiale mourra, ça on l'a vu juste dimanche dernier, 2 milliards de personnes juste dans le chapitre 6 d'Apocalypse vont mourir, ça fait beaucoup, hein. Eh bien, Jésus va revenir physiquement et visiblement, nous dit Apocalypse 19. Mais cette fois, il ne va pas revenir pour sauver les gens, mais il reviendra pour juger le monde. Une immense bataille va se dérouler, qui s'appelle la bataille d'Armageddon, en Israël, nous dit Apocalypse 19. Jésus viendra, il vaincra, et alors Jésus établira son royaume. Voilà ce que nous apprend très vite le livre de l'Apocalypse. Vous dites, John, tu crois ça? Vraiment? Tu crois ça? Comment savoir si c'est vrai ou pas? C'est la question. Alors tout le monde est intrigué, hein. On est tous intrigués par ce qui va se passer. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors comment savoir? C'est ça la question en fait. Alors je vous montre un autre verset, regardez. Hébreux 9, 28. Je crois qu'il est affiché. Nous dit ceci. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc ce verset résume le fait que Jésus est venu une fois pour offrir le pardon des péchés et qu'il va revenir une deuxième fois. C'est ce que le verset dit. Donc la Bible affirme sans équivoque que Jésus est venu une fois et qu'il va revenir une deuxième fois. Donc c'est ce qu'on appelle une prédiction claire du retour de Jésus. Question. Comment savoir si ce verset est vrai ou faux? Comment savoir si Jésus va vraiment revenir? C'est bien beau de le dire, c'est bien beau de l'imaginer, mais comment savoir si c'est vraiment vrai ou pas? Est-ce que nous sommes tout simplement un groupe de personnes complètement illuminées, évoquant de belles paroles mais totalement éloignées de la vérité, ou pas? Écoutez, on va le prouver maintenant. On va prouver que c'est vrai, d'accord? Il faut savoir que non seulement la seconde venue de Jésus-Christ a été prédite, comme je viens de le lire, mais il faut savoir que la première venue de Jésus a aussi été prédite. Oui, celle où Jésus est venu en tant que bébé, Noël. Où il a grandi, il a fait ses miracles, il a donné ses messages. Ensuite, il a été crucifié, il est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Ça, c'est sa première venue. Ce qui est intéressant, c'est que sa première venue a été minutieusement prédite dans l'Ancien Testament, des centaines d'années avant qu'il arrive. Et alors, écoutez, c'est vraiment super, puisque nous, on est à l'époque où on est aujourd'hui, 2000 ans plus après la venue de Jésus, il n'y a rien de plus simple que d'aller dans l'Ancien Testament, vérifier les prophéties et voir si oui ou non elles se sont accomplies. Et, écoutez le raisonnement, si nous pouvons établir sans équivoque que les prophéties de sa première venue se sont réalisées à la lettre, alors quelle est la probabilité que les prophéties qui concernent sa seconde venue vont aussi se réaliser? Voilà la logique. Vous voyez, ce que j'aime avec la Bible, honnêtement, c'est que c'est logique. C'est du A plus B plus C. C'est mathématique. C'est clair et net. Ça, j'aime. Alors, pour voir si les prophéties de la première venue de Jésus se sont accomplies, comme promis, tout ce qu'il faut faire, c'est d'acheter un livre, parce que le travail a déjà été fait, par un gars qui s'appelle Paul Humbert. Il vient d'écrire un livre intitulé « 400 prophéties de Christ dans l'Ancien Testament ». En fait, il en a compté 414 en tout. 414, ça fait un paquet de prophéties, hein. Alors, j'aimerais les regarder, non pas toutes, quelques-unes. Quelques-unes, d'accord? Quelques-unes. Et alors, je les ai listées ici, derrière nous. On va passer à la prochaine diapo. Regardez certaines de ces prophéties absolument incroyables. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi? Alors peut-être avant de le lire, il faut se rappeler que Ésaïe a écrit 800 ans avant Jésus-Christ. Alors il écrit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors certains veulent dire, ouais, mais le mot vierge ne veut pas vraiment dire vierge. Ça veut dire jeune femme, allemand en hébreu. Oui, mais le problème, si c'est une jeune femme, ben, il n'y a pas de signe. C'est plus un miracle alors, puisque c'est un signe. Beaucoup de jeunes femmes ont des enfants. Mais une vierge, ça c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et bien sûr, le Nouveau Testament affirme sans équivoque que Jésus est né d'une vierge. Il fallait qu'il soit né sans péché pour pouvoir s'offrir pour le péché du monde. Donc, numéro 1, le Messie serait né d'une vierge. Matthieu 1, 22 et 23 l'affirme. 2. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, bien sûr, on n'a pas le temps de regarder l'arrière-plan de chacune de ces prophéties, mais ça, on peut le faire. Vous pouvez acheter le livre aussi, si vous voulez. Regardez, Michée 5, 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien et au jour d'éternité. » Donc, il dit que cette personne va naître à Bethléem, celui dont les activités remontent au temps ancien et au jour de l'éternité. Donc, quelqu'un d'éternel allait naître à Bethléem. Et nous le savons. Nous le savons. Matthieu 2, 4 à 6 nous dit que Jésus est né à Bethléem. Jérémie 31, 15. Ainsi parle l'Éternel par rapport au massacre d'enfants qui a eu lieu à la naissance de Jésus. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Repris dans Matthieu 2, 16 à 18. 4, c'est intéressant, dans Osée 11, 1, et on peut le lire ici, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Eh bien, Matthieu 2, 15 nous dit que pour fuir les massacres, Jésus a dû fuir, il est allé en Égypte avec ses parents et il est revenu d'Égypte. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et vous vous rappelez certainement dans Matthieu 21, lorsque Jésus rentre dans Jérusalem, acclamé par la foule, sur un âne. Accomplissement de cette prophétie. Le psaume 41, 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui je mangeais mon pain, lève le talon contre moi. Et le psaume 41, 10 est confirmé par Jean 13, 18 qu'il serait trahi par un proche, Judas. Jésus cite ce passage. Écoutez, Zacharie 11, 12 et 13 est incroyable aussi. Je leur dis, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils posèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetais dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans Matthieu 26, 15, 27, 7 et 10, vous vous rappelez ce que Judas a fait? Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a jeté l'argent dans le temple et ensuite ils ont acheté ce bout de terrain avec cet argent. Prophétie pile poil Zacharie 11. Ésaïe 56. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a été crucifié, c'est exactement ce qui lui est passé. Tout ça, c'est relaté dans Matthieu 27, 30 dans le Nouveau Testament. Alors, attenez-vous bien. Psaume 22. Écoutez, j'étais en Israël et le guide français avec qui on parlait, j'ai dit, écoutez, j'aimerais faire un petit jeu avec vous, monsieur le guide. Il a dit, ouais, d'accord, j'aime bien les jeux. Parce qu'on parlait beaucoup de la religion en Israël, on en parle bien sûr. Mais il était juif, il n'était pas chrétien. Je lui ai dit, j'aimerais vous lire un texte et j'aimerais que vous me dites qui ce texte décrit. Vous êtes juif, je lis et vous me dites de qui il parle. Alors j'ai lu ceci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière et à la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils s'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sort ma tunique. Il m'a dit, ben, c'est simple, c'est Jésus. J'ai dit, vous êtes sûr? J'ai dit, il a dit, ouais, mais bien sûr, ça pourrait être qui d'autre? J'ai dit, ok, est-ce que vous savez où j'ai lu ce texte dans la Bible? Ben non, dans le Nouveau Testament. J'ai dit, j'ai fait comme ça. Le psaume 22, Ancien Testament, votre Bible. Le gars, il était, il n'y croyait pas. 1000 ans avant Jésus-Christ a été écrit cela. 1000 ans avant Jésus-Christ. Faut le faire. Psaume 22, c'est incroyable. Que ses mains et ses pieds seraient percés. Le psaume 69, 22, regardez. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils abreuvent de vinaigre. Vous vous rappelez quand Jésus était crucifié? Ils ont pris une éponge et ils ont mis du vin, du vinaigre pour lui donner à boire. Prophétie, psaume 69, 22, accompli dans Matthieu 27, 34 et 48. Regardez le psaume 34, 21 encore. Celui, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Vous vous rappelez l'histoire, vous avez peut-être vu les films aussi, il y avait 3 crucifiés, Jésus avec 2 brigands, et pour qu'ils meurent rapidement, parce que le sabbat arrivait, mais ils ont pris une barre de fer et ils ont cassé les jambes des crucifiés pour qu'ils meurent plus vite, parce qu'ensuite ils mouraient d'étouffement parce qu'ils ne pouvaient plus se tenir sur leurs jambes. Alors ils ont cassé les pieds des 2 brigands, ils sont arrivés à Jésus, ils allaient lui casser les jambes, ils ont dit non, il est déjà mort. Ils ont pris une lance, ils lui ont percé le côté, vous rappelez, et du sang et de l'eau est sorti pour être sûr qu'il était mort. Ils n'ont jamais brisé un os. Prophétie accomplie, psaume 34. C'est incroyable, mes amis, la minutie de ces accomplissements. Le psaume 22, 19. On vient de le lire, mais dans ce contexte, il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. Le texte biblique nous dit clairement dans Jean 19 qu'il avait une tunique, mais d'une pièce. Beaucoup de tuniques de moins bonne qualité étaient cousues en plusieurs pièces. La sienne était une pièce. Donc les gardes, les gens qui ont crucifié Jésus, disent, attends, on ne va pas déchirer cette tunique. On tire au sort pour voir qui peut l'avoir dans une pièce. Prophétisé pile poil. Psaume 22, 19. Ésaïe 53, 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'a eu point de fraude dans sa bouche. C'est intéressant. Joseph d'Arimathée, un homme riche, a offert son tombeau pour l'enterrement de Jésus. Accomplissement parfait de Ésaïe 53, 9. Le psaume 16, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, psaume 16, sur la résurrection, aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc il est en train de parler de quelqu'un qui n'allait jamais, qui allait ressusciter en fait, qui ne reste pas corrompu dans la mort. Et Jésus est mort et il est ressuscité. Donc ceci est repris pour la résurrection. Mais j'aimerais aussi, avec ce fameux guide en Israël, on était, je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'on refait un jeu? Il a dit, ouais, d'accord. J'aime bien mon jeu, il m'a dit. Alors je vais vous lire un texte, vous me dites à qui vous pensez, d'accord? Il a dit, ouais, d'accord, super, on y va. Alors j'ai pris ma Bible, je ne lui ai pas montré où je lisais. C'est que si tu connais un peu la Bible, tu sais très bien que je ne suis pas dans le Nouveau Testament, je suis au milieu là, d'accord? J'ai commencé à lire. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. est frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Alors je lui ai dit, alors, c'est qui ? C'est facile. C'est Jésus, c'est évident que c'est Jésus. Ça pourrait être personne d'autre que Jésus. J'ai dit, ouais. Et vous croyez que c'est écrit où dans votre Bible ? Dans le Nouveau Testament. J'ai dit, complètement raté. Ésaïe, chapitre 53, écrit 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le gars, il était bluffé. Bluffé. Alors, on est dit très vite et on a choisi que quelques prophéties. Alors, est-ce que ces prophéties se sont accomplies ? Il est impossible de conclure autrement. Alors, c'est pas vrai parce qu'il y a deux hypothèses contre les prophéties. Je vais vous les montrer, d'accord ? C'est intéressant. Certains disent, mais non, John, écoute. Jésus, ouais, voici ce qu'il propose comme solution. Jésus, un homme comme vous et moi, a décidé de vouloir se faire passer comme le Messie. Alors il a pris toutes les prophéties qui le concernaient, le Messie à venir, il a fait une liste, et il s'est appliqué à les accomplir lui-même, pour se faire passer comme le Messie. Donc il avait les 414 prophéties, et là il a passé toute sa vie, enfin quelques 3 ans, à vraiment faire qu'il puisse les accomplir. Alors, écoutez, cet argument, il est excellent si vous ne voulez pas réfléchir. Parce que comment on fait pour planifier le fait qu'on serait né d'une vierge ? Ça, c'est plutôt compliqué. Comment faire pour prédire son lieu de naissance ? Comment faire pour prévoir que les enfants seraient massacrés dans sa ville natale au moment de sa naissance ? Et comment prévoir sa propre résurrection physique ? Écoutez, cette hypothèse est stupide. Alors certains ont dit, non, alors c'est un coup de chance. Gros coup de peau. Que Jésus, par hasard, ait accompli toutes ses prophéties. Alors écoutez, déjà, pour répondre facilement à cette hypothèse, il faut un sacré coup de chance pour être né d'une vierge. Pour prédire son lieu de naissance, pour prévoir le fait que des enfants seraient massacrés dans la ville natale au moment de sa naissance, et pour prévoir sa propre résurrection physique. Écoutez, là, il faut vraiment beaucoup de chance. Mais parlons probabilité si vous aimez les maths, d'accord ? Pour mettre ceci en perspective, j'aimerais vous illustrer l'illustration du singe. Je crois qu'il y a un singe qui va apparaître, voilà. C'est pour voir si la probabilité jouerait. Imaginons un ordinateur spécial fabriqué pour les singes avec 50 touches composées de 26 lettres majuscules, 10 chiffres, une barre d'espace et 13 symboles de ponctuation. Par souci de simplicité, nous ne tenons pas compte des majuscules ou des minuscules. Selon les règles de la probabilité, combien de temps cela prendrait-il pour un singe de taper au hasard le psaume 23 ? En incluant 603 lettres, numéros de versets, la juste ponctuation et les espaces. Pour taper correctement le psaume 23 qui contient 603 lettres demanderait 50 à la puissance 603 divisé par 31 536 000 qui égale 9,552 fois 10 à la puissance 1016 années, ou pour faire simple, ça prendrait à ce singe, tenez-vous bien, 122 milliards d'années. Milliards d'années pour taper par chance, le psaume 23. Or, Jésus a accompli 414 prophéties. Et je pensais avec mon épouse en rentrant ce matin, on pensait à une des prophéties, vous savez, l'âne. Vous connaissez l'histoire ? Pour que Jésus puisse monter sur l'âne, prophétiser, tout ce qu'il fallait qu'il arrive pour que cet âne soit là au moment où Jésus voulait l'âne. Tout ce qui devait arriver pour que cela soit accompli parfaitement. Non mais attendez voir, c'est inimaginable. Le nombre de choses qu'il fallait qu'il arrive pour que ces prophéties arrivent. Probabilité, faut oublier. Alors Jésus est venu une première fois. Là, on vient de l'établir très rapidement, bibliquement, prophétie devant nous. Pourquoi il est venu? Très simple. Luc 19, 10 nous le dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus est venu pour sauver les hommes de leurs péchés. C'est aussi simple que ça. Il a vu que nous étions tous pécheurs, nous sommes tous rebellés contre Dieu, et que nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts, par nos propres religions, par nos propres efforts, parce que la barre de Dieu, elle est très haute, c'est la perfection. Soyez donc parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Alors comment est-ce qu'on devient parfait? Est-ce qu'on peut le faire par nos bonnes œuvres? Non, c'est pas possible. Non, la seule manière, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ qui vient mourir à ma place, enlever mon péché. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi il est venu pour la première fois. C'est pour offrir sa vie en sacrifice pour nous. Alors question, mais il a dit qu'il allait revenir. Pourquoi? Pourquoi? Simple, vous êtes prêts? Pour juger le monde. Voilà pourquoi il va revenir. Pour juger le monde. Il attend patiemment. 2 Pierre 3, verset 4, nous dit ceci. Certains disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme le commencement. Il est en train de dire, vous faites que de prédire que Jésus va revenir. Ben, on attend encore. Hein, ça fait 2000 ans. Hein, on attend. Ouais, vous attendez longtemps quand même. Pourquoi? Alors regardez verset 9, je vais vous lire, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant tous, que tous arrivent à la repentance. Dieu attend que le maximum de personnes se repentent et viennent à Christ, et quand lui aura décidé, il reviendra. Il reviendra. Alors maintenant, voici ce que je vais faire. Si toutes les prophéties de sa première venue se sont accomplies, alors quelle est la probabilité que les prophéties sur sa seconde venue vont s'accomplir de la même manière? Plutôt haute, c'est pas d'accord? Alors, qu'est-ce qui a été prédit pour l'avenir? Alors j'ai pas mis tous les versets parce que j'ai pas le temps. Mais je vais en lire. Maintenant, on va lire des versets sur le retour de Jésus. Écoutez bien, c'est vraiment, vraiment intéressant. Quelques prophéties sur le retour. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Celui qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, voici ce qu'il dit. Premièrement, Jésus reviendra pour nous prendre avec lui. D'accord? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc Jésus dit, écoutez les gars, je suis parti, je reviens pour vous chercher et vous amener à la place que je vous ai préparée. C'est là où vous dites, ouais, comment tu sais si c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que toutes les prophéties sur sa première venue se sont accomplies? Oui. Quelle est la probabilité que celle-ci va s'accomplir? Très haute. Très, très haute. 2. Jésus reviendra personnellement. Personnellement. En Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, s'il revient aujourd'hui, d'accord, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous dites quoi? Tu crois ça? Ouais! Ouais, j'y crois. Mais comment tu peux le croire? Parce que toutes les prophéties de sa première venue se sont accomplies. Pourquoi je ne croirais pas celle-ci? Ah, c'est tellement logique. Moi, je trouve ça génial. Et t'allais voir, c'est encore plus spécifique. Alors là, tenez-vous bien. Zacharie, d'accord? Dans l'Ancien Testament. 14, verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Alors moi je crois que ça va arriver à la fin de la tribulation. Jésus va revenir, d'accord, c'est exactement ce que le texte dit. Zacharie, attention, Zacharie a été écrit, il faut vite que je trouve la date de Zacharie. Zacharie a été écrit... 600 ans avant Jésus-Christ, d'accord ? Il est en train de dire, quand Jésus revient, il va revenir, tac, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, je suis déjà allé plusieurs fois, hein, on peut y aller, il va toucher le mont des Oliviers, et cric, le mont des Oliviers va se fendre en deux. C'est dingue, il y a un autel sur le mont des Oliviers aujourd'hui, je me demande si l'autel va être fondé en deux, j'en sais rien, mais c'est ce que la texte dit. John, tu crois vraiment ça ? Ouais, j'y crois, littéralement. Il reviendra corporellement. Acte 1, 10. Quand Jésus monte au ciel, comme il y avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus en blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel, donc physiquement, corporellement, visiblement. Tu crois ça ?
Ouais,
à fond. Jésus reviendra visiblement, bon, on vient de le dire, hein, d'accord. Matthieu 24, 30, juste pour changer de verset, il y a tellement des versets là-dessus, c'est incroyable. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance, avec une grande gloire. Il est en train de dire, tout le monde le verra, tout le monde. Vous dites, ouais, mais la terre est ronde, comment ils vont faire de l'autre côté ? D'accord. Et Dieu, il fait prendre le monde comme ça, s'il veut. Il n'y a pas de problème. Il reviendra sur des nuages, en plus. Vous dites, vraiment ? Ouais, non mais vraiment, regardez voir, c'est vraiment super. 1 Thessaloniciens 4, 17, qui dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Sur des nuages ? Ouais. Il y aura vraiment des nuages, on sera là-haut, pas dans un avion. On sera comme ça, en train de surfer sur les nuages. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être super. Jésus reviendra, sixièmement, de manière soudaine. Alors ça fait peur. Ça fait peur. Matthieu 24, 26, Jésus dit ceci. Si donc vous dites, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne n'y croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. Vous avez déjà vu un éclair ? Ça va vite ? Il est de retour. Il dit, il revient aussi vite qu'un éclair. Oh, dis donc. Ça, c'est rapide. Alors les gens disent, ouais, mais tant quand il arrivera, ben, je me repentirai vite. Non, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Il reviendra avec tous ses anges en plus. Alors, il y en a combien ? Ben, on a vu ça la semaine dernière, il y en a des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. D'accord ? 1 Thessaloniciens 7 et 8. Non, 2 Thessaloniciens, excusez-moi, on est quoi ? Dans 2 Thessaloniciens 1, 7 et 8 dit « Lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Avec tous ces anges. Jésus viendra aussi avec tous ses saints décédés, tous les chrétiens qui sont décédés, qui sont déjà là-haut avec lui. Quand il revient, on revient avec lui. Si on est déjà mort, mais on revient avec lui. Apocalypse 19, 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. J'aurais dû lire peut-être avant. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et le Véritable qui juge et combat avec justice. C'est Jésus qui vient. Il est dit que l'on vient tous avec lui. Donc tous les chrétiens décédés de tous les temps viennent avec lui. Il revient sur le mont des Oliviers, ça on l'a déjà vu tout à l'heure, Zacharie 14. Jésus reviendra pour juger le monde. Alors ça on l'a vu dimanche dernier, c'est incroyable. Hein. Là si vous voulez voir, écoutez un message qui même moi m'a ébranlé, c'était... Ça c'est vraiment du costaud, d'accord ? Écoutez Apocalypse 6, 16. Et il disait aux montagnes, aux roches... Non, ah non, pas du tout. Ah oui, pour juger le monde, exactement. Il revient pour juger le monde et il disait aux montagnes, aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Donc les gens du monde sont là, ils savent que Jésus va revenir pour juger, et là, ils préfèrent mourir, et donc ils se cachent dans les cavernes, ils disent « Tombe sur moi pour que je meure, parce que je ne veux pas faire face au jugement de Jésus qui va revenir. » Tu dis « Tu crois ça ?» Ah ouais, à fond. Pourquoi ? Parce que toutes les prophéties de sa première venue se sont accomplies. Pourquoi ça ne s'accomplirait pas, ça ? Jésus reviendra pour vaincre dans la bataille d'Armageddon. Alors, ce n'est pas que les films Hollywood qui parlent d'Armageddon. Eux, ils ont eu cette idée parce que la Bible en parle. Ils ont piqué l'idée de la Bible. Mais dans Apocalypse 19, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix en disant, « Tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui montent, la chair de tout libre, esclave, petit et grand. Et je vis la bête et le roi et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise... » Attends, c'était où Armageddon, la mince? J'ai perdu le nom Armageddon. Où est-ce que le nom Armageddon apparaît dans Apocalypse 19? Est-ce que quelqu'un peut me trouver? Armageddon. Ah là 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 là. Ben, il est là quelque part, je n'avais pas trouvé, d'accord? Je suis désolé. Armageddon. Bon, c'est pas grave. Faites pas confiance, Armageddon apparaît dans Apocalypse 2 fois, si je ne me trompe pas. Il reviendra pour juger l'Antichrist aussi. Apocalypse 19, 20 et le verset 10. Écoutez l'Antichrist. « Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Il reviendra juger Satan, on vient de le lire. Il reviendra juger tous les impies. Et il viendra pour détruire le monde. Écoutez, Apocalypse 21, 1 et 2, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Il reviendra pour instaurer son règne éternel. Et Apocalypse 22 nous dit qu'il revient bientôt. Vous dites, « Ouais, mais 2000 ans, c'est long. » C'est long pour nous, mais pas pour Dieu. Alors, j'étais très vite, hein, je sais. Comment on réagit à tout ça? Première possibilité, vous dites, John, t'es fou. Beaucoup de gens pensent que les chrétiens sont fous, surtout quand ils commencent à parler de ces trucs. Ils disent, non mais attendez, il faut revenir dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Hein, on est à Genève, il y a la COP, la Migros, les achats, la vie, ma voiture qui tombe en panne, l'essence. John, reviens sur Terre, d'accord? Reviens sur Terre. Je suis sur Terre. Je suis sur Terre. C'est intéressant. C'est précisément ce que les Juifs ont conclu par rapport à la première venue de Jésus. Ils ont dit, mais il est fou. Il prétend, mais il est complètement malade, quoi. Il prétend n'importe quoi, ce gars. Et pourtant, pendant 3 ans, il a fait miracle après miracle après miracle après miracle pour prouver qu'il venait de Dieu. Mais ils ont appliqué Deutéronome 18 et ils ont dit, non, t'es un faux prophète. Et ils l'ont tué. Au moins, ils ont appliqué leur loi, mais mal, parce qu'il n'était pas un faux prophète. C'était un vrai prophète. C'était le Messie. C'était le Messie. Et ils l'ont crucifié. Mais ils connaissaient parfaitement bien toutes ces prophéties. C'est intéressant, dans Matthieu 2, quand les rois mages sont arrivés, Hérode, il a eu peur parce qu'il venait chercher le roi des Juifs qui venait d'être né quelque part. Il a eu peur. Donc il a réuni les Juifs. Il a dit, écoutez, selon vos Écritures, où est-ce que le Messie doit naître ? Matthieu 2. Hein. Alors ils ont consulté les Écrits. Ils sont arrivés dans Michée 5. Hein, ils ont dit, écoute, monsieur Hérode, il doit naître à Bethléem. Les Juifs ont compris où devait naître le Messie. Ce qui est dingue, c'est qu'ils ne se sont même pas déplacés pour aller le voir. Ils connaissaient parfaitement leurs Écritures. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus était le Messie. Et ils l'ont crucifié. Alors, par rapport au retour de Jésus-Christ, moi je vous pose la même question. Qu'en est-il ? Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? C'est intéressant comme question, hein ? Alors je pense qu'il y a deux réactions possibles et on termine ici. Hein. Il y a deux types de personnes qui vont réagir à ce genre de message. Premièrement, ceux qui disent « Ouais, ouais ». Bon, peut-être j'ai pas compris tout, c'est les gens qui disent « Ouais, peut-être j'ai pas tout compris tout par rapport à ce qui va revenir, mais je suis convaincu que ces prophéties sont vraies, qu'il va revenir. Il va revenir. » Et ce jour-là, il va me prendre avec lui au ciel. Il n'y aura plus de souffrance, plus de péché, plus de mal, plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance, plus de maladie. Nous célébrerons dans sa gloire l'allégresse de la noce des agneaux avec les rachetés de tous les temps. Nous serons face à face avec lui. Nous le verrons enfin, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et nous passerons l'éternité à l'adorer. Et là, on est prêt. Seigneur, viens. Viens, moi je suis prêt. C'est intéressant, dans Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit ceci. Il dit, celui qui lit ceci et qui croit ça, il va être heureux. Un chrétien devrait être heureux. Malgré toutes les épreuves qu'il va subir dans la vie, il dit, ouais, mais trop bien, regardez ce qui m'attend, c'est génial. Alors bien sûr, on va le prendre pour un illuminé. Parce que lui, il est tout content et les gens disent, ouais, mais non, mais le monde, c'est la galère, écoute, non. Non, nous, on est contents, c'est super là-haut. Ouais, mais sur terre, vous voyez, c'est un contraste. Alors, il y a une deuxième possibilité. Son retour est ridiculisé par les autres. C'est intéressant, la Bible en parle. Dans 2 Pierre 3, écoutez, c'est intéressant. Ils disent, où est la promesse de son avènement ? C'est les gens qui vont dire, ouais, ça fait tellement d'années qu'on dit que Jésus va revenir. Ben, on attend encore. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous les chrétiens, c'est du n'importe quoi. Combien de fois on m'a déjà dit ça ? Oh là 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 là. Ok. On verra bien. On verra bien. Jésus a dit pour que ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez ce qu'ils entendent dire ? Les gens vont dire, c'est du n'importe quoi. Donc ils continuent leur vie, comme ça, comme s'il n'y avait de rien. Et un jour, paf, il va revenir. Comme avec Noé. Quoi ? Ouais. Jésus va revenir un jour. Alors la question c'est, pas quand, parce qu'on ne sait pas. Pas si, parce qu'on sait que ça va arriver. Ouais, non, non. Pense aux prophéties de la première venue de Jésus-Christ, c'est un doute. La seule question est celle-ci. Est-ce que tu es prêt ? Voyez-vous ? Noël, hop, c'est éteint, c'est comme ça. Noël prouve le retour de Jésus-Christ parce que Noël a été prophétisé. Et son retour est prophétisé. Donc la question, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus-Christ ? Si pas, aujourd'hui, demande-lui tout simplement. Jésus, je veux que tu me pardonnes mon péché. Pardonne mon péché. Donne-moi cette vie éternelle et donne-moi cette espérance de te voir un jour. Je te donne mes péchés, je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie. Comme je l'ai fait 2 ou 3 jours après avoir vu ce voyant en Inde, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de Jésus-Christ. Il m'a dit, écoute, tu as besoin de Jésus-Christ. J'ai dit, ok. J'ai confessé mon péché là dans la rue. J'ai demandé à Jésus-Christ de devenir mon sauveur et il a changé ma vie. Est-ce qu'il a enlevé tous mes problèmes ? Non. Mais il m'a donné le pardon des péchés et la garantie qu'un jour je le verrai. Amen. J'espère que c'est vrai pour toi aussi. Inclinons-nous. Ô Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour dans la parole de Dieu qui est si claire et si prouvable, Seigneur. Merci pour Noël. Et merci pour ton retour. Merci, Seigneur, pour l'étude de l'Apocalypse que nous sommes en train de faire maintenant, qui nous explique toutes ces choses, Seigneur. Notre avenir, clairement. Ô Seigneur, que nous puissions tous revenir dimanche prochain pour la suite, Apocalypse 7, Seigneur, être émerveillés par tout ce qui va s'accomplir et par ton retour, Seigneur. Et si quelqu'un ne te connaît pas ici ce matin, qu'il puisse aujourd'hui, Seigneur, dire oui à Jésus-Christ le Sauveur. Merci, au nom de Jésus. Amen.